soir, la République démocratique du Congo est classée parmi les 20 pays les plus corrompus au monde, selon le rapport sur l'indice de perception de la corruption pour l'année 2018 publié lundi dernier par Transparency International. Avec un score de 21%, le pays occupe la 161e place sur 180 pays évalués. Et depuis 2 ans, la RDC occupe toujours le bas du tableau. Quelle lecture faire de ce classement? C'est la question au débat ce soir. Et pour en parler, nous accueillons Ernest Mpararo, secrétaire exécutif de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, LICOCO en sigle. Également point focal en République démocratique du Congo de l'ONG Transparency International. Ernest Mpararo, bonsoir. Jean-Pierre Passy-Zapamba, bonsoir. Vous êtes avec nous dans ce studio de Radio Okapi, député national et membre de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire à l'Assemblée nationale. Vous êtes aussi président du réseau des parlementaires africains contre la corruption, chapitre RDC. Et enfin, Willy Kalengai, journaliste et directeur général de Géopolis, magazine spécialisé dans le domaine des ressources naturelles. Willy Kalengai, bonsoir.
Bonsoir.
À tous, bienvenue dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
La République démocratique du Congo parmi 20 pays les plus corrompus au monde, avec un score de 21%, le pays occupe la 161e place sur 180 pays qui ont été évalués. C'est ce que révèle le rapport sur l'indice de perception de la corruption pour l'année 2018, publié lundi par l'ONG Transparency International. La corruption a un impact négatif sur le processus électoral en République démocratique du Congo et les nouvelles autorités doivent prendre des mesures pour renverser la tendance. C'est ce qu'a affirmé en substance, dès la publication de ce rapport, Ernest Mpararo, secrétaire exécutif de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, LICOCO en sigle, et point focal en RDC de cette ONG allemande. Il est joint par Pelé Kipelamondo.
Ce qu'on peut retenir, c'est qu'en RDC, la corruption est généralisée et la corruption a des impacts ou des conséquences. Et comme vous le savez, la corruption mine les processus démocratiques. Et si vous regardez aujourd'hui, après un mois des élections, vous aviez suivi des candidats qui ont dénoncé des pratiques de corruption pendant les processus électoraux. Vous aviez vous-même publié des contestations de certains candidats par rapport au processus électoral. Vous aviez suivi les médias locaux qui ont dit qu'il y a des candidats députés provinciaux qui demandent de l'argent pour des candidats qui ont déposé leur candidature au poste de gouverneur. Tout cela, effectivement, la corruption mine grandement ou efficacement le processus démocratique en RDC et en Afrique et au monde entier.
Et qu'est-ce que les nouvelles autorités peuvent faire pour freiner, si pas enrayer, ce fléau?
Les nouvelles autorités doivent continuer avec les réformes, créer une agence anticorruption, ratifier les conventions internationales, et punir, sanctionner, donc mettre fin à tout ce qui s'adonne au détournement, tout ce qui s'adonne à la fraude, tout ce qui s'adonne au pot de vin, et cela peut renverser la tendance.
Jean-Pierre Passy-Zapamba, vous êtes député national et membre de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire à l'Assemblée nationale. Vous êtes aussi président du réseau des parlementaires africains contre la corruption, chapitre RDC, c'est l'expression consacrée. La RDC, vous l'avez entendu dans les débats qui viennent de passer, est classée pour l'année 2018 161e sur 180 pays. Ce nouveau mauvais classement de la RDC au sujet de la corruption dans le monde est-il crédible avec ces résultats selon vous?
Non, apparemment, nous ne pouvons pas prétendre que notre pays a de la crédibilité lorsqu'on est classé parmi le 20 pays les plus corrompus. Vous venez de suivre tout à l'heure notre ami Ernest Mpararo qui venait d'évoquer le domaine, n'est-ce pas, des élections. Moi, je dois vous dire encore beaucoup plus loin, sur base de ce que nous avons observé, que dans l'ensemble, les Congolais ne comprennent pas en majorité que la corruption est nocive. Et dans notre pays, vous vous rendrez compte qu'elle est euphémisée, elle est banalisée, elle est même sacralisée. Les gens.
En fait, la première question, c'était êtes-vous d'accord avec ce classement de la RDC par rapport à la corruption?
Eh bien, être d'accord ou ne pas être d'accord, le plus important, c'est de nous rassurer que la corruption existe dans notre pays.
Et selon vous, la corruption existe en RDC ou pas?
Elle existe. On l'applique. Nous la vivons. Et nous mangeons avec elle. Nous vivons dans la corruption. Nous nous protégeons et nous faisons tout avec la corruption. Et donc, parce qu'elle existe, nous devons tous prendre des dispositions, en commençant d'abord par les nouvelles autorités, comme venait de le dire Ernest Pararo.
Alors, qu'est-ce qui explique, selon vous, que la RDC soit justement parmi les 20 pays les plus corrompus au monde, autrement dit, les pays les moins bien gérés du monde? On peut aussi le comprendre ça comme ça.
Mais de toutes les façons, je ne sais pas vous donner exactement ce qui l'explique, mais la vraie situation est que, au niveau de la gouvernance, il se pose un problème réel. Et ce problème réel fait que l'ensemble de la situation du pays se trouve dans une situation où le peuple ne trouve pas son compte quand il va à l'école, il ne trouve pas son compte lorsqu'il va à l'hôpital, le peuple ne trouve pas son compte lorsqu'il va à l'université, au milieu de travail. Imaginez un peu, monsieur Madimba, quelqu'un qui va au travail et qui se trouve à la fin du mois avec un salaire de 80 000 francs. Et quand vous regardez le coût de transport qu'il engage lorsqu'il doit aller au service, rentrer, payer les frais des enfants, s'occuper des soins de santé des enfants et régler tous les autres problèmes tout en étant locataire. Pensez-vous qu'un pareil monsieur peut avoir la conscience tranquille lorsqu'on lui demande d'exécuter un travail qui doit conduire au développement et à l'amélioration de la situation de notre vie.
Oui.
Vous allez vous rendre compte en ce moment-là, pour moi, que le premier responsable des actes de la corruption se trouve être le gouvernement de la République.
Député Jean-Pierre Passy Zapamba, dans ce classement, il y a des pays comme l'Érythrée, le Botswana, qui sont les meilleurs pays en Afrique par rapport à la corruption, c'est-à-dire c'est les pays les moins corrompus en Afrique. Le Rwanda aussi fait partie. C'est des pays africains qui
oui.
vivent dans des contextes plus ou moins similaires que la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui, selon vous, explique que ces pays soient beaucoup mieux classés et aient moins de corruption que la RDC?
C'est un problème tout simplement des disciplines des dirigeants dans la façon de gérer la chose publique. Et vous allez vous rendre compte que aussitôt qu'il y a eu passation de pouvoir en République démocratique du Congo, les réseaux de parlementaires contre la corruption a adressé un message au président de la République, au nouveau président de la République, et qui est l'actuel président, son Excellence Félix
Tshisekedi,
en lui demandant tout simplement que le peuple congolais n'attend pas tout simplement un changement nominal d'homme à homme, mais plutôt un changement de l'état d'esprit. Les pays dont vous venez de parler, le Botswana, c'est tout simplement un problème de rigueur, de discipline dans la gestion de la chose publique. Ici, vous allez vous rendre compte que la population ne participe même pas activement à la gestion de la chose publique. On a l'impression que la gestion de la chose publique est réservée à une catégorie de personnes qui sont dans le gouvernement, qui sont au Parlement, qui sont dans les entreprises publiques, alors que cette population devait être exigeante. Elle devait exiger de la part de ceux qui ont reçu la responsabilité de conduire les autres la transparence. Ils devaient exiger la responsabilité et en même temps la redevabilité. Si l'on n'est pas redevable, quand on a reçu un pouvoir et quand on est là au service des autres et qu'on ne sait pas rendre compte de ce pourquoi on a été élevé en dignité, en ce moment-là, il se pose un problème. Je vais vous donner un exemple. Au Parlement, vous avez suivi le débat sur la fibre optique. Vous avez suivi le débat sur le FPI. Et le député ont dénoncé, ils ont cité nommément, ils ont dit qu'il y a eu détournement. Et qu'est-ce qui devait s'en suivre? L'on devait agir, l'on devait faire quelque chose. Parce que l'on a besoin, par exemple, de 2 millions de dollars pour désenclaver, par exemple, la route Popoka-Songolunda. Mais au FPI, on prend 140 millions de dollars qu'on distribue à des personnes sans identité. Et celles qui ont des identités, on ne sait pas s'élever pour dire « Prenons cet argent, prélevons 2 millions, on va désenclaver toute une province qui a la production agricole qu'on peut acheminer dans la ville de Kinshasa et qui peut permettre de réduire le prix des denrées alimentaires. »
Jean-Pierre,
donc tous les problèmes se trouvent au niveau de la discipline, au niveau de la rigueur dans la gestion de la chose publique.
Oui, la discipline, la rigueur, mais vous ne dites pas la discipline et la rigueur auprès de, que, de quelles autorités. Je rappelle que vous-même, Jean-Pierre Patizapamba, vous êtes assez concerné parce que vous êtes député national et membre de la commission économique, financière et contrôle budgétaire à l'Assemblée nationale. Donc vous avez la responsabilité de contrôler la gestion du pays. Comment expliquer que déjà, depuis 3-4 ans, la RDC occupe toujours ce classement, et comment expliquer que à peu près 15 milliards de dollars s'évaporent dans la nature chaque année des caisses de la République démocratique du Congo, alors que votre structure, l'Assemblée nationale, existe, et beaucoup d'autres structures, notamment l'Observatoire anticorruption et la Ligue contre la corruption.
Exactement, je vais commencer là où vous avez cité quand le Zolo Bambi clame tout haut 15 milliards.
Il n'est pas le seul, hein. Il n'est pas le seul à le dire.
Et lui, j'insiste.
Cette vérité était déjà connue par d'autres.
Parce que lui, il dit, je l'ai suivi dans une conférence, il dit, je signe et je persiste. Alors, il est question maintenant de se poser la question, quand un haut responsable de la République à ce niveau-là signe et persiste? Maintenant, il reste à savoir les autres pouvoirs qui existent en République démocratique du Congo. Je les cite, le gouvernement de la République, l'Assemblée nationale, les cours et tribunaux. Avez-vous suivi une action quelconque pour contredire le Zolo Bambi et dire quelque part, mais où sont ces 15 milliards dont tu parles tout le temps et pour lesquels tu signes et tu persistes? Avez-vous suivi le procureur général de la République s'adresser à Luzolo Bambi pour dire « Mais qui sont ceux-là » Et pourtant, Luzolo Bambi vous dit que j'ai déposé plus de 500 plaintes aux cours et tribunaux par rapport à ces 5, à ces 15 milliards dont je parle.
Jean-Pierre.
Je finis, j'atterris en disant que le gouvernement de la République est venu il y a 2 mois avec un budget de 4 milliards. Pourquoi ce gouvernement ne peut-il pas se poser la question? Orientons nos actions vers Luzolo Bambi pour qu'il nous donne les indications de là où se trouvent les 15 milliards et les insérer dans le budget.
Jean-Pierre Passezapamba, j'ai pas très bien compris votre argumentation. Vous me posez les questions, pourquoi le gouvernement ne fait-il pas ça? Vous auriez plutôt dû donner les réponses du pourquoi, puisque vous êtes contrôleur de la gestion de l'État en tant que député national. Mais nous revenons à vous tout à l'heure si vous avez d'autres argumentations pour pouvoir les développer. Willy Kalengai, vous êtes journaliste et directeur général de Géopolis Magazine, un magazine spécialisé dans le domaine des ressources naturelles. Entendre et découvrir que la RDC est parmi les 20 pays les plus corrompus, et ça fait déjà 3-4 ans que cette situation perdure, qu'est-ce que cela suscite en vous comme réaction?
Merci de m'avoir associé à ce débat. D'ailleurs, je salue notre ami Deli Coco et surtout l'honorable député que je connais bien. Mais je voudrais d'abord rapidement faire une mise au point très rapide, hein, et puis je réponds à votre question. Le mise au point, c'est que la corruption est un phénomène mondial. La corruption, elle est partout. La corruption, c'est, elle relève du genre humain. La corruption est dans le côté négatif de l'être humain. Donc, elle est partout, dans tous les pays du monde. Vous avez des phénomènes de corruption. La différence maintenant, c'est quoi? La différence, c'est que chaque pays maintenant met en place des mécanismes pour lutter contre la corruption. Il ne faut donc pas stigmatiser, parce que ce que je crains dans les différents rapports qui sont transmis dans le monde, c'est que l'on stigmatise et que l'on indexe des pays en disant ils sont les plus corrompus. C'est justement parce que leur système de répression par rapport à la corruption est défaillant. Mais la corruption, elle est partout. Lisez simplement l'actualité aux États-Unis, en France, en Europe. Vous allez voir que les phénomènes de corruption sont partout, en politique, en économie, dans tous les secteurs. Sans pourtant justifier cela, que c'est un mal, mais c'est un mal qui est mondial, un phénomène qui est relève de la nature humaine. Il ne faut donc pas penser qu'il y a des pays qui sont totalement blancs, et il y a des pays où il n'y a pas de corruption, il y a des pays où il y a de la corruption. Elle est partout. Simplement, la différence entre les États, c'est que les États se mettent en place, ils prennent conscience et ils mettent des mécanismes de répression.
Pensez-vous alors dans ce cas que ce rapport est exagéré, mais je vous rappelle ce que vous savez déjà, quand oui. On sait que dans un pays comme la RDC qui a moins de 5 milliards de budget, il y a 15 milliards qui s'évaporent comme ça des différentes voies de mobilisation des recettes, est-ce que ce n'est pas suffisamment scandaleux pour le souligner?
L'hypothèse selon laquelle les 15 milliards qui s'évaporent sont directement liés à la corruption et n'est pas totalement démontrable. Ce qui est vrai, c'est que 60% de l'économie congolaise est informelle. Donc, les flux financiers qui circulent dans le pays ne passent pas par l'officiel, par l'économie formelle. C'est pourquoi il y a, d'une manière ou d'une autre, des gens qui font des activités commerciales que l'État ne parvient pas à capter comme recette de son activité. Le plus grand déficit que nous avons, ce n'est pas tant de lutter contre la corruption, mais c'est la structure économique de notre nation. Comment nous pouvons avoir des structures économiques qui sont incapables de capter un flux financier de 15 milliards? C'est le triple de ce qu'il y a comme budget national. Je ne minimise pas du tout la corruption. Elle existe dans notre pays et elle est pratiquée, comme vous l'avez tout à l'heure dit au début, au grand jour. Elle est même devenue endémique. Elle pense même devenir un moyen par lequel certains survivent. Mais faites attention, en stigmatisant un État, on fait l'erreur de croire qu'ailleurs ça se passe très bien. Chez nous, nous avons un déficit, et l'honorable député l'a dit. Le grand déficit, c'est d'abord la structure économique elle-même, telle qu'elle fonctionne, elle ne parvient pas à fidéliser l'ensemble des activités économiques. Deuxièmement, nous avons deux grands déficits au niveau de l'Assemblée nationale et du Parlement en général. Le contrôle parlementaire, je ne me rappelle pas en 2018, un contrôle parlementaire qui a abouti à des sanctions, il n'y en a pas eu. Quand il y a eu le contrôle parlementaire, soit la mission n'a pas été terminée, ou si elle a été terminée, le rapport final n'a pas été traité en plénière. Donc, il y a ce problème d'impunité, quand bien vous connaissez la vérité. La troisième chose, c'est que, et ça a été dit aussi par notre ami de la Likoko, c'est que nous avons souscrit à beaucoup de traités internationaux, mais nous n'avons pas ratifié. Ce que les instruments de lutte et de combat contre la corruption dans notre pays sont insuffisants. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps en disant, tout en étant déçu quand même, parce que c'est pas honorable qu'un rapport comme ça soit fait, mais je ne néglige pas.
Allô, Willy Kalengaï, vous êtes toujours avec nous?
Voilà, je suis avec vous. Je ne néglige pas le fait que les rapports internationaux, parce que sont quand même aussi teintés d'une certaine idée de domination. Je ne néglige pas ça, je ne néglige pas cela parce que quand vous regardez le même rapport, il dit quoi? Il dit que notre pays a perdu beaucoup de points à cause de la corruption dans les mines. Mais qui corrompt dans les mines? N'est-ce pas les multinationales? Est-ce que les multinationales, c'est les Congolais? Qui vient avec le fonds pour pouvoir détruire nos administrations? C'est pas les multinationales. Donc ça signifie en réalité que nous, les Congolais sont acteurs de cette corruption parce qu'ils acceptent. Mais ils sont confrontés à un système mondial, un capitalisme mondial, qui est un capitalisme de prédation et qui ne s'est développé que sur base de la corruption. Parce que le capitalisme n'accroît son capital qu'en minimisant les charges et en maximisant les recettes, les profits. Or, pour minimiser les charges, on contourne la loi, on contourne les procédures. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, ne nous flagellons pas, ne faisons pas de notre pays un enfer de la corruption. Nous avons des défis à relever, mais nous ne sommes pas différents des autres pays, des États-Unis, de la France. Vous avez tous suivi l'exemple du président de Nissan, qui aujourd'hui est en prison au Japon. Ce n'est quand même pas un Congolais. C'est des millions, des millions.
Willy Kalengai, on imagine bien que nous ne faisons pas ni dans cette émission, ni tout en bien sensé, ne fait pas l'apologie de l'absence totale de la corruption dans certains pays. Mais ici, j'imagine ce qui est relevé, c'est la contradiction entre la mobilisation des recettes et parfois leur inégale redistribution. Ce rapport dit par exemple que certains pays africains, dont l'Érythrée et le Botswana, sont parmi les moins corrompus en Afrique et qu'en Occident, c'est notamment l'Europe de l'Ouest qui est bien cotée. Et on constate que dans ces pays-là, je donne un exemple, une personne qui touche 1000 euros de salaire par mois, vous ne la verrez jamais conduire un bolide de 50, voire 100 000 dollars. Mais en République démocratique du Congo, tout le monde le voit, une personne qui gagnerait 200 dollars roulerait facilement avec une voiture, voire plusieurs voitures, qui coûtent plus de 50 000 dollars. Est-ce que c'est acceptable?
Non, ce n'est pas acceptable, mais relativisons les choses. Relativisons les choses. Ce n'est pas acceptable, mais relativisons les choses. Aujourd'hui, si vous suivez les mouvements des gilets jaunes en France, vous comprendrez par exemple que de quoi se plaignent-ils? Ils se plaignent aussi qu'il y ait des riches qui deviennent de plus en plus riches et eux, des pauvres, de plus en plus pauvres. Il ne faut pas penser que nous sommes dans un monde isolé. Le capitalisme, il est mondial. Le système de production des richesses, il est mondial. Il y a les détenteurs des moyens de production, il y a les sources de ces productions, donc les matières premières, et il y a les autres, les travailleurs. Je suis d'accord avec vous en disant que c'est quand même un scandale que dans un homme qui a 500 dollars de revenus et puisse rouler carrosse. Mais en même temps, je dis que ne perdons pas de vue que la grande activité économique, celle de production des richesses dans notre pays, elle est informelle. Aujourd'hui, par exemple, je vous dis la production de l'or. L'or quitte le pays pour aller à l'exportation. L'or qui quitte le pays, la quantité qui est exportée est plus importante sur le plan de l'artisanat et de l'informel que sur le plan du formel. Pourquoi? Parce que notre structure économique ne parvient pas à réprimer l'ensemble des contrefaçons dans le domaine de l'économie. Je suis d'accord avec vous qu'il faut combattre la corruption, mais pas se stigmatiser. Ne stigmatisons pas les comportements. Ne pensons pas que nous sommes les pires. Battons-nous en disant chaque jour nous pouvons gagner un combat. Vous avez cité par exemple le Botswana. Pourquoi le Botswana ça a réussi? Mais l'économie du Botswana est entre les mains de qui? Le Botswana, c'est une seule et unique ressource, c'est les diamants. Mais depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, l'économie du Botswana est entre les mains d'une seule et unique entreprise. Ce qui fait que c'est normal de contrôler les flux financiers, c'est normal de les distribuer, c'est normal. Mais nous avons à peu près dans notre pays une centaine de données stratégiques sur des minéraux rares. Ça signifie que l'exploitation artisanale prend les dessus sur l'exploitation officielle. C'est normal que l'État ne parvienne pas à capter tout cela. Il faut donc faire les réformes, et ça a été dit au début, des réformes sur notre propre économie, l'insérer totalement dans la production et dans les formels, et ainsi vous allez voir que les revenus qui vont rentrer dans les formels vont aller vers les fonctionnaires, vers l'agent de l'État, qui sera bien payé et qui sera mis à l'abri de la tentation pour la corruption. Parce que s'ils ne sont pas bien payés, s'il n'y a pas du tout de revenus pour survivre, malheureusement, le système D va triompher.
Journaliste et directeur général des Géopolis Magazine, spécialisé dans le domaine des ressources naturelles, Willy Kalengai, la RDC a quand même mis en place des structures pour permettre de lutter contre la corruption dont nous parlons dans cette émission. Il y a par exemple l'Observatoire de lutte contre la corruption, il y a l'ONG l'ICOCO, mais il y a aussi toute une personnalité chargée de lutter auprès du chef de l'État, c'était le le cas pour le chef de l'État, Joseph Kabila, le conseiller spécial chargé de lutte contre la corruption et la fraude qui a eu à être mis en place pour combattre ce phénomène. Pourquoi, malgré l'existence de toutes ces structures, la RDC n'a pas beaucoup bougé positivement par rapport à la lutte contre la corruption? Est-ce que toutes ces instances, ces structures, on peut considérer qu'elles ont échoué?
Oui, dans une certaine mesure, parce que les résultats que vous venez de nous donner ne sont pas encourageants. La vérité, c'est que, évidemment, je reconnais le travail important fait par la LICOCO, parce que, mais malheureusement, comme encore, la LICOCO ne fait que dénoncer. La LICOCO, ce n'est pas la justice. La LICOCO ne fait que nous dire ce qu'il y a, ce qui ne va pas. Alors, quand nous revenons vers les sphères politiques, évidemment, le président de la République, Joseph Kabila, avait mis en place toute une structure, un conseiller, d'ailleurs, ancien ministre de la Justice, avec une mission précise. Mais dites, regardez combien de dossiers ont été mis en place par le Zolobambi, le professeur. Beaucoup de dossiers, beaucoup d'enquêtes. Mais quand nous allons vers la justice pour pouvoir appliquer et réprimer, c'est là où nous avons des résistances. Nous avons des résistances parce que la lutte contre la corruption n'est pas encore devenue une culture politique générale. Ce n'est pas une volonté politique. Quand bien même c'était une déclaration du chef de l'État, elle était déclaratoire, mais n'a pas été récupérée par toutes les instances pour en faire une culture et un combat de tous les jours. C'est comme ça que, qu'est-ce qui a fait que Luzolo ne puisse pas aller de l'avant? C'est le même système qui est en place. Donc, quand il veut réprimer, on lui dit non, ne touchez pas là-bas. Si vous touchez ici, les intérêts stratégiques, c'est parce que notre système, malheureusement, a incorporé la corruption dans ses nerfs, respiratoires. Nous respirons cela et pour pouvoir nous en sortir, il faut qu'il y ait une volonté politique, mais une volonté réelle, une volonté de tous les jours, une volonté systématique en mettant en place un système non seulement de dénonciation, mais aussi en protégeant les dénonciateurs. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez dénoncer quelqu'un pour des faits de corruption, c'est vous qu'on arrête plutôt que lui, parce qu'il aura déjà dit non, vous m'avez diffamé.
Merci Willy Kalendai. Merci, nous revenons à vous tout à l'heure. Député national et membre de la commission économique, financière et contrôle budgétaire à l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Passezapamba, vous êtes aussi président du réseau des parlementaires africains contre la corruption, dénommé chapitre RDC. Vous allez réagir, mais d'abord en écoutant cette réflexion de Franklin.
Je suis Franklin Matumaini, je vous appelle depuis la ville de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Malgré les multiples engagements pris par le gouvernement congolais, tout porte à dire qu'il y a plus de slogans sans aucune volonté politique. Un travail significatif est à accomplir dans la lutte contre la corruption, car la place occupée par la RDC déshonore le pays et les nouvelles autorités devraient comprendre que c'est le premier et le plus grand chantier, d'où il ne faut pas continuer à se comporter comme des régimes qui sapent les efforts de lutte contre ce fléau. C'est pourquoi il faut une stricte surveillance des marchés publics par des normes et lignes directrices minimales pour des marchés publics. Les commandes publiques doivent être claires et plus faciles à analyser. Une récupération de tous les biens mal acquis et dissolution des sociétés écrans dont plus souvent les propriétaires sont des autorités qui œuvrent dans l'anonymat, rendant ainsi difficile le contrôle des activités criminelles et l'argent sale.
Monsieur le député, vous récupérez la parole tout à l'heure. Juste le temps pour nous de signaler que cette émission est handicapée du troisième intervenant, qui est Ernest Mparar, secrétaire exécutif de la Ligue Congolaise de lutte contre la corruption, LICOCO en sigle, qui est aussi le représentant RDC de Transparency International, qui a publié le rapport qui est en débat ce soir. Il nous avait donné son accord de principe d'être là, mais il n'est pas là et les contacts téléphoniques dont nous disposons de sa part ne fonctionnent pas. Nous espérons peut-être un miracle à la fin de cette émission, parce qu'on aurait voulu quand même que Transparency International nous explique plus ou moins comment ce rapport a été produit. Alors, Jean-Pierre Passezapamba, vous êtes député national et membre de la commission économique. Tout à l'heure, au sein de l'Assemblée nationale, tout à l'heure, vous vous interrogiez à haute voix sur pourquoi toutes les actions initiées par le Parlement ne donnaient pas effet. Mais justement, vous êtes autorité, hein, avec vos autres collègues, pour pouvoir mener des actions, notamment des sanctions. Pourquoi, malgré tout le désastre En rapport avec la corruption dont nous parlons ce soir, rien n'a été fait. Pratiquement aucun ministre n'a été sanctionné, aucune structure de l'État n'a été sanctionnée contre la corruption.
Je suis d'accord avec vous parce que en tant que réseau des parlementaires contre la corruption, lorsque nous procédions à l'évaluation de l'activité parlementaire vers la fin de notre législature, nous avons dit que nous étions très très avancés en ce qui concernait le vote de loi, mais nous avons connu des faiblesses. Et ça, il faut le reconnaître en ce qui concerne le contrôle parlementaire. Dans notre dernière activité que nous avons exercée en tant qu'APNAC, nous avons dit qu'un parlement qui n'exerce pas un contrôle citoyen n'en est pas un. Et donc, je suis d'avis également avec Willy Kalengai lorsqu'il parle du système et lorsqu'il parle de la corruption qui est un phénomène mondial. Oui, il est mondial. Mais la corruption crée des conditions qui ne permettent pas aux Africains en général et aux Congolais en particulier de se retrouver dans le comportement de leurs dirigeants. C'est un phénomène mondial. Le mot corruption même est en français. Il n'est ni à Lingala, ni en Swahili, ni en Chiluba, ni dans aucune langue nationale. Nous disons ici tout à l'heure en français. Mais quand vous allez dans le système français, vous allez trouver que les soins médicaux, la vie des enfants à l'école, tout est réglementé. Et que lorsque notre système n'arrive pas à capter les recettes nécessaires, parce que il y a l'informel qui prime sur le formel, c'est que quelque part, ce système doit être révisé dans son intégralité pour améliorer. Et même nous n'allons pas rester dans les plaintes. Tout ce qu'il faut maintenant, je crois, c'est de saisir le taureau par les cornes. Parce qu'il n'est pas trop tard pour mieux faire.
Autrement dit, saisir le taureau par les cornes.
Maintenant, nous devons, parce que nous sommes conscients que parmi ce qui fait que notre pays, le développement de notre pays ne puisse pas décoller, se trouve la corruption. Il faudra maintenant que nous puissions nous attaquer aux fondamentaux. Les fondamentaux en ce qui concerne, par exemple, la lutte contre la corruption, se trouvent être, par exemple, la révisitation d'un certain nombre de textes de loi en République démocratique du Congo. Pourquoi j'insiste sur les textes? Parce que vous allez vous rendre compte que toutes les personnes qui décident à la place des autres, ceux qui émettent des projets pour le développement, pour la survie des autres, ce sont ces personnes-là qui sont à l'avant-plan dans la matérialisation de la corruption.
Jean-Pierre
Patrice, et qui n'arrive pas.
L'auditeur vous pose la question, parce que vous dites là qu'il faut encore produire des textes, alors qu'il y en a d'autres qui ne sont pas appliqués. Lui, il pose la question, puisqu'on connaît ou on soupçonne certaines personnes de s'être accaparé les moyens de l'État de manière indue, est-ce qu'on ne peut pas diligenter des procès, et pour ceux qui seraient démontrés coupables, est-ce qu'on ne peut pas saisir, récupérer et remettre à l'État certains biens mal acquis?
Mais c'est parmi les textes, quand je dis on va récupérer, et lorsque vous n'avez pas de textes qui vous disent clairement ce que c'est la corruption, qui peut vous énumérer par exemple les actes de corruption, lorsque vous n'avez pas de preuves matérielles, parce que le droit, il va tourner toujours autour de preuves, indiquer, montrer les preuves. Donnez-nous les preuves que nous avons détournées. Il faudra d'abord rassurer les uns et les autres.
Les preuves de détournement, les audits existent dans tous les services de l'État. On peut se saisir des résultats des audits pour diligenter une action en justice, monsieur l'honorable.
Je dois vous dire que sur ces plans-là, lorsque vous prenez le code pénal actuellement, dans son état actuel, il ne permet pas. Je vous dis, parce que ça, ce sont des réponses que j'ai obtenues de ceux qui sont censés dire le droit. Et lorsqu'on amène des faits de corruption vers eux, ils se plaignent. Je vais vous donner un exemple reçu d'une haute autorité judiciaire. Il me dit, regardez, la plupart des personnes qui sont citées sont soit ministres, soit députés, soit directeurs généraux, soit un haut fonctionnaire. Et tous disposant des immunités. Et pour pouvoir les arrêter, il faut d'abord passer par des procédures très très longues. C'est-à-dire, pour un député, il faut passer par le Parlement. Pour un ministre, il faut suivre une longue procédure.
Jean-Pierre
et c'est là que nous disons maintenant,
Jean-Pierre Passe
nous avons tout intérêt.
Jean-Pierre Passe Zapamba, pensez-vous que en Érythrée et au Botswana, il n'y a pas de députés et des personnes couvertes d'immunité? Pourquoi ce pays ne connaît pas le désastre de fuite des capitaux lié à la corruption comme
tout la Tout est fonction du système qui est en place. Et on l'a dit tout à l'heure, les systèmes politiques. Il faut une volonté politique avérée, une volonté politique qui dit que, pour le moment, ministre, député, qui que vous soyez, en matière de corruption, lorsque vous êtes pris en flagrant délit, eh ben, on exerce, on applique la loi. Et en ce moment-là, si on s'attaque à l'impunité, si on met fin à l'impunité et qu'on puisse donc agir dans le sens de la sanction, une sanction négative et aussi une sanction positive, une sanction négative pour le détourneur, pour le corrupteur et pour le corrompu, je pense que la meilleure façon de mettre un terme et d'arrêter cette hémorragie, c'est la sanction.
Merci.
Parce que
merci,
la crainte de la sanction est le commencement de la bonne gouvernance.
Merci Jean-Pierre Passezapamba. Willy Kalengai, journaliste et directeur général de Géopolis, magazine spécialisé dans le domaine des ressources humaines. Nous allons écouter ensemble ce commentaire de Guy.
Guy Gisengi, depuis la commune de Lemba à Kinshasa. Ces rapports ne viennent de confirmer tout ce qu'a décrit les ONG locales et le conseiller spécial de l'ancien président de la République. Et lutte contre la corruption, qui a dressé une liste avec les noms de certains caciques de ces régimes sortants. Le constat malheureux est que le PGR, auprès de qui les noms de présumés détourneurs ont été donnés, n'a sanctionné aucune personne. La conclusion à tirer de ces rapports est celle de confirmer que celui-ci vient d'éprouver la mégestion de ces régimes sortants qui avaient pour mode de gestion les détournements, l'impunité et la corruption.
Willy Kalengai.
Oui, vous savez que c'est extrêmement... Il ne faut pas faire des raccourcis non plus. Aujourd'hui, l'honorable député vient de le dire, en matière de répression, les textes sont parfois lacunaires. Parce que la première des choses que les députés ont fait, et la plupart, c'est de donner des immunités. Et les droits doivent être respectés. Mais il faut que nous puissions, en matière de corruption, nous puissions agir en flagrance. Nous pouvons agir sans tenir compte de ces immunités. Dans certains pays, et voilà ce que l'on peut faire dans notre pays très rapidement. Il suffit simplement qu'on aille regarder les déclarations des biens que beaucoup de gens ont fait à l'entrée dans leurs fonctions. Et quand ils quittent les fonctions, ils font aussi une autre déclaration. Si seulement on compare ces deux listes, on comprendra qu'il y a eu effectivement enrichissement illicite et certainement détournement des ressources. C'est les six. C'est l'implémentation de cette volonté dans les quotidiens. C'est les contrôles. L'appareil judiciaire est déficitaire en matière de lutte contre la corruption. Parce que, justement, elle-même aussi, lui-même, excusez-moi, cet appareil, il s'est construit aussi, malheureusement, sur cette base de la corruption. Combien de magistrats a-t-on révoqué? Combien d'avocats entrent dans les bureaux des juges, déjà avec... des négociations d'argent. Notre système judiciaire ne permet pas, malheureusement, à combattre la corruption parce que lui-même, il tire sa force, sa puissance d'un système corrompu. C'est ça la difficulté que nous avons et elle est structurelle. C'est comme ça qu'il faut une volonté politique affichée et les nouvelles autorités doivent, d'une manière ou d'une autre, l'exiger. C'est de la survie de la nation qui dépend la lutte contre la corruption. Si nous ne luttons pas contre la corruption, tous les efforts que nous faisons pour la croissance économique ne seront que vains, parce que nous ne parviendrons jamais à avoir des ressources suffisantes pour faire le bonheur du peuple congolais. Il faut lutter contre la corruption et il faut être dans une tolérance zéro par rapport aux corrupteurs et aux corrompus. Mais en prenant en compte que la corruption est endémique, elle est devenue un système qui a produit sa propre logique et qui se reproduit lui-même au travers de la corruption. Je corromps, tu corromps, il corrompt, nous corrompons et nous sommes tous corrompus. Alors nous pensons que c'est la normalité. Il faut briser la normalité de la corruption. Et ça ne peut être fait que par une volonté politique affichée par les chefs de l'État, par son gouvernement et par les députés.
Willy Kalengai, malheureusement cette émission tire vers sa fin. Ce rapport montre aussi que la RDC a quand même progressé et se met au devant, pas forcément en termes de rang, mais par rapport à des concurrents. La RDC, dans sa mauvaise position de corrompu, passe quand même avant le Tchad, le Congo voisin d'en face et l'Angola, qui sont des puissances pétrolières. Cela montre que le Congo, la République démocratique du Congo peut faire des efforts. Selon vous, justement, comment faire pour éliminer cette corruption, commençant déjà par des petits actes comme les policiers qui acceptent facilement des pourboires de la population régulièrement?
Il y a eu beaucoup d'efforts et je salue depuis 2003 notre engagement dans l'ITIE, donc l'initiative pour la transparence dans les secteurs administratifs. Depuis que les entreprises minières déclarent ce qu'elles payent à l'État, et depuis que les régies financières déclarent ce qu'elles reçoivent, et depuis que le pays, chaque année, produit un rapport sur les ressources naturelles dans le domaine des recettes, nous avons gagné beaucoup de points. Nous avons donc défini un certain nombre de lignes de conduite. Ça, c'est au niveau de la grande, grande corruption. Mais la grande corruption, elle est restée dans le domaine de l'État, dans le secteur des infrastructures, des appels d'offres par rapport aux travaux publics. C'est là la gangrène. L'octroi des marchés, parce que l'observatoire, ou du moins l'autorité de régulation des marchés publics n'a jamais vraiment fonctionné. L'octroi des marchés ici a été clientéliste. Malheureusement, ça n'a pas permis au pays d'aller de l'avant. Et c'est ce qui a permis à ce que aujourd'hui la corruption reste. Elle reste là. La petite corruption, là, celle du policier vers le coin, elle disparaîtra très rapidement. Payez simplement bien les policiers, vous allez voir qu'ils seront des très très bons gardiens de la cité. Il faut améliorer les revenus des fonctionnaires de l'État. Si on n'améliore pas les revenus, on ne pourra jamais gagner cette corruption-là. Mais elle doit être, nous devons avoir une lumière nationale qui nous éclaire sur le combat contre la corruption. Et cette lumière ne peut être allumée et portée que par l'autorité qui fera exemple, par exemple, en donnant aux inspecteurs les contrôles des finances et les contrôles des comptes des différents particuliers.
Merci Willy Kalengai. Jean-Pierre Passezapamba, vous allez conclure aussi de manière très concrète. Qu'est-ce qu'il faut exactement mettre en place pour vaincre la corruption qui est collée à la RDC année après année?
La première des choses, c'est que la population qui vit les conséquences néfastes de cette corruption doit pouvoir se prendre en charge en veillant sur la transparence, sur la responsabilité et sur la redevabilité de ceux qui sont chargés à conduire la chose publique. Le deuxième élément que je peux citer, l'éducation, la sensibilisation. C'est ce que nous faisons tous les jours, mais nous pouvons améliorer ça surtout en parlant de la volonté politique avérée de lutter contre la corruption de la part des autorités, à lutter contre l'impunité, à lutter contre toutes sortes d'antivaleurs. En ce qui concerne, par exemple, notre gouvernement que nous attendons, il faudra des valeurs morales, la valeur éthique de la part de ceux qui sont censés collaborer avec le chef de l'État pour que nous puissions tous, chacun en ce qui les concerne, nous rendre compte que nous avons été élevés en dignité parce qu'il y a une population.
Et de la part du Parlement et de l'Assemblée nationale,
non, mais je parle de
et des députés, qu'est-ce qu'il faut faire?
Au Parlement, il faut un contrôle citoyen. Les lois existent. Et ce qui fait défaut dans ces pays, c'est la mise en application de ces lois. Or, le Parlement est la meilleure institution qui exerce le contrôle politique. Et le système politique actuel doit s'appuyer sur les contrôles citoyens du Parlement s'il veut.
Et pour éviter que les contrôles du Parlement ou de l'Assemblée nationale restent lettre morte, comme ça a été le cas avec cette législature, qu'est-ce qu'il faut?
Il faut que le gouvernement, le système à mettre en place, doit s'appuyer sur ces contrôles du Parlement s'il veut atteindre des résultats palpables.
Merci Mimi Kindou, Guy Maté, Kéline Kouté et Pelé Kipela Mondo m'ont aidé à préparer cette émission. Dona Madimba, c'est moi. Je voulais présenter Dialogue entre Congolais. C'est fini pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.